Suivez Priorité Santé avec Sunwa Assurance et souscrivez à l'assurance d'essai pour mettre vos proches à l'abri de tout besoin financier. Sunwa Assurance, notre métier, l'assurance.
Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion. Priorité Santé, Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans Priorité Santé, nous allons parler d'une maladie oculaire qui constitue une cause majeure de cécité sur la planète, le glaucome. Pour comprendre cette affection, il faut s'arrêter sur l'anatomie de notre œil, l'organe de la vue. Le glaucome entraîne des lésions du nerf optique, nerf abîmé, dans la plupart des cas par une pression excessive dans l'œil lorsque l'évacuation du liquide interne est ralentie. Et comme la plupart des glaucomes se développent sans douleur, eh bien le risque majeur, c'est un diagnostic tardif lorsque la maladie est déjà bien installée. Mais si aujourd'hui les traitements permettent de freiner, parfois même de suspendre l'évolution, ces prises en charge ne réparent ni ne restaurent la vision initiale. D'où l'importance, et nous allons vraiment insister sur ce point au cours de l'émission, l'importance du dépistage, savoir quand consulter, à quels examens procéder, et une fois la prise en charge définie par l'ophtalmologiste, comprendre l'importance du suivi comme la prise, le bon suivi du traitement. Dépister, prendre en charge le glaucome, vos questions, vos témoignages au 33 1 84 22 75 75 et sur la page Facebook de l'émission. Les différents types de glaucome, les symptômes, le diagnostic, pour en parler avec nous en ligne de Lyon. Professeur Philippe Denis, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef du service d'ophtalmologie à l'hôpital de la Croix-Rousse et vous avez assuré la direction scientifique de la bande dessinée Le Crépuscule des yeux, publiée aux éditions narratives avec le soutien de l'UNADEV, Union nationale des aveugles et déficients visuels. Tout à l'heure, en ligne de République démocratique du Congo, on retrouvera le docteur Magloire Nzolantima, chirurgien ophtalmologiste et médecin directeur à la clinique ophtalmologique L'AL Vision à Kinshasa. Médecine tropicale et santé internationale, c'est le nom d'une revue scientifique francophone en libre accès. Libre accès, ça signifie gratuit. Objectif, élargir l'accès à la publication d'articles signés par des chercheurs et des praticiens du Sud. On retrouvera en fin d'émission le docteur Jean Janin, président de la Société francophone de médecine tropicale et santé internationale.
Priorité santé sur RFI.
Alors, professeur Denis, vous présidez la Société française du glaucome. S'il y avait un maître mot, message clé à faire passer lorsque l'on parle de cette maladie de l'œil, avant d'expliquer précisément les symptômes, les effets de cette maladie, c'est bien insister sur un dépistage précoce, on va dire, vraiment essayer d'avoir le diagnostic le plus tôt possible.
Oui, tout à fait. S'il y avait un message à donner, c'est la meilleure prévention du glaucome, c'est le dépistage. Dépistage systématique après 45 ans, de telle façon qu'on ne voit plus de glaucome évoluer et qu'on puisse les contrôler, les traiter rapidement.
Finalement, ce message dépister le plus vite possible, il s'adresse à qui ? Il s'adresse aux patients ou il s'adresse aux spécialistes de la vision, aux ophtalmologistes ?
Ah ben, je dirais un petit peu aux deux, parce que à l'âge de 45 ans, on va voir son ophtalmo pour faire des lunettes de presbytie, on peut être gêné par la presbytie. Et à ce moment-là, le médecin va faire des examens de routine qui sont tout à fait simples, non douloureux, très rapides et très faciles à mettre en place. Et il va ainsi contrôler la tension dans l'œil et voir si le patient a ou non un glaucome. Et dès qu'il y aura une suspicion de la maladie, il fera des examens complémentaires. Il va bien sûr regarder le fond de l'œil pour voir le nerf optique, et il peut demander des examens. Et vraiment, s'il y a un message à donner, c'est que la meilleure prévention, c'est le dépistage.
Et encore une fois, dire que c'est bien indolore, ça se fait lors d'une consultation, on va dire, ordinaire. Il ne faut pas prendre une consultation plus longue, mais c'est une consultation dédiée à ce dépistage.
Ah, tout à fait, c'est une consultation de routine. Le médecin va mesurer la vision, va avec un petit jet d'air qu'il vous envoie dans l'œil, mais c'est absolument indolore, mesurer la tension. Et il va regarder avec des appareils un peu sophistiqués, mais sans contact avec l'œil, l'aspect de l'œil, le fond d'œil, et voir s'il y a un glaucome. Et vraiment, ça prend 5 minutes.
Alors, ce qui plaide justement en faveur de ce dépistage, c'est que finalement, au début, et même peut-être même jusqu'à un stade assez avancé, on peut développer un glaucome sans le sentir, avec vraiment une maladie silencieuse de l'œil.
Oui, parce que c'est une maladie de l'œil qui est liée à la pression qui augmente à l'intérieur de l'œil. Et cette augmentation de la tension va se répercuter sur le nerf optique. Le nerf optique, c'est le câble qui envoie la lumière au cerveau. Et donc, si on peut, on imagine assez bien que quand la pression dans l'œil est trop forte, ça écrase le nerf optique, un peu comme un fil électrique qui marchera moins bien après. Et du coup, le patient, au départ, n'a pas de symptômes, ce qui fait un peu le danger de la maladie, parce qu'au départ, on ne sent absolument rien. Mais au bout d'un moment, quand beaucoup de fibres, de cellules qui composent le nerf optique sont détruites, le patient commence à ressentir une gêne visuelle, une maladresse. Mais là, c'est souvent le signe d'une maladie déjà bien évoluée.
Parce que
Donc
vous
il
avez
faut.
dit, le nerf est détruit, ça veut dire qu'on ne peut pas revenir en arrière. Ça plaide encore en faveur du dépistage. On freine la maladie, mais les lésions, elles ne guérissent plus.
D'une façon générale, c'est une maladie qui est irréversible. Tout ce qui est perdu est perdu. Cependant, il faut donner un message d'espoir. Lorsque la pression diminue, lorsque la pression chez un patient est assez élevée et qu'on la diminue soit par la chirurgie, soit par l'écolyre, eh ben, les patients disent assez fréquemment qu'ils voient un petit peu mieux, parce que sans doute parce que le nerf optique est moins soumis à cette pression.
Ça fait partie du soulagement. Alors, on a des questions Facebook, professeur Philippe Denis, avant de donner la parole aux auditeurs en direct. Facebook, Jeneiba de Ouagadougou demande comment différencier les symptômes du glaucome et ceux de la cataracte?
Alors, la cataracte donne une baisse de vision qui est très progressive, qui est un peu parallèle à l'importance de la cataracte, avec parfois un brouillard visuel, des difficultés à lire, alors que le glaucome, je vous dis, au départ, c'est aucun signe, et puis après, le patient ressent malgré tout une gêne, c'est-à-dire que il peut avoir des difficultés à voir sur les côtés quand les images viennent de droite ou de gauche, et il peut avoir des difficultés à descendre les escaliers, à se repérer dans l'espace quand il passe d'une pièce claire à une pièce sombre, les gens vous le disent. Alors que la cataracte, c'est une baisse de vision progressive, un peu non spécifique.
Alors, Brice de Pointe-Noire au Congo lui demande s'il y a un lien entre décollement de la rétine et glaucome. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
C'est deux maladies de l'œil, mais qui n'ont rien à
Rien
voir.
à
Le
voir.
décollement de la rétine, c'est la rétine qui se décolle et c'est une urgence, ça va très 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 vite. Le glaucome évolue sur des dizaines d'années.
Question de Miguel, toujours au Congo-Brazzaville. Est-ce que le fait de porter des lunettes sans l'avis d'un médecin peut causer le glaucome?
Alors non, directement, le glaucome n'est pas provoqué par des lunettes inadaptées. Par contre, si vous n'avez pas de lunettes ou si vous avez acheté des lunettes sans vérifier votre état oculaire, ça veut dire que vous n'avez pas vu d'ophtalmo. Et donc, dans ces cas-là, vous n'avez pas fait le diagnostic de glaucome, tout simplement.
On peut avoir quelque chose qui nous gêne dans la vision, on croit qu'il faut des lunettes, et puis finalement, non, c'était un glaucome qui est en train de se développer. Donc, encore une fois, essentiel d'aller consulter.
Ah oui, et ce type de situation de glaucome que l'on diagnostique à un stade assez évolué, ça se voit encore et malheureusement.
Professeur Denion, on va parler des traitements, de l'évolution. On va aussi répondre, bien sûr, aux questions des auditeurs. On leur donne tout de suite la parole.
Priorité santé sur RFI.
On est en ligne avec Ambroise. Ambroise, bonjour. Ambroise, est-ce que vous êtes avec nous? Bonjour.
Je suis bien là, vous m'entendez?
On vous entend parfaitement en ligne de la région parisienne de Cachan. Le professeur Denis est à votre écoute. Alors, expliquez-nous, vous êtes concerné par le glaucome. De quel traitement est-ce que vous avez bénéficié, Ambroise?
Alors, moi, j'ai bénéficié de deux traitements. Le premier, quand on a diagnostiqué que c'était un glaucome vers les fin des années 90, on m'a mis sous Cosopt. Et je suis resté sous Cosopt pendant de 98 à 2013.
C'était un collyre, c'est ça?
Oui, c'est un collyre. Alors, quand j'étais suivi à l'hôpital de l'Hôtel Dieu, et il y a eu plusieurs médecins qui se sont succédés, et quand le dernier est parti, il y a un professeur qui m'a pris en charge. C'est lui qui m'a dit, mais là, c'est vraiment, ça a pris beaucoup de temps. Pourquoi on ne vous a pas proposé une opération au laser? Mmh. Il m'a dit que ça avait pris une tournure, qu'il fallait arrêter ça tout de suite. Mmh. Donc, il m'a proposé donc une opération au laser sur les deux yeux. Ça s'est étalé sur 2 mois. Le premier mois, c'était l'œil gauche, le second sur l'œil droit. Et j'ai continué de mettre les gouttes du COSOPT jusqu'à il y a 4 mois, quand j'ai été repris par un autre médecin, mais cette fois-ci à l'ophtalmopole de Cochin, où je suis suivi actuellement pour une uvéite. Et là, donc il m'a dit que l'opération au laser avait bien marché et qu'il fallait que j'arrête le COSOPT. Il m'a mis sous Dexaflu.
Ah, donc aujourd'hui, est-ce que vous êtes satisfait de cette prise en charge?
Alors, je peux vous dire qu'entre-temps, j'ai eu beaucoup de problèmes. Peut-être que le professeur aura à m'éclairer. Parce que je suis allé passer des vacances en 2019 au Cameroun. Je suis rentré et là, je ne voyais plus rien. On a découvert que j'avais une hémorragie à l'œil gauche qui avait des répercussions à l'œil droit.
Et on a mis cette hémorragie sur le compte de la pression intraoculaire ou ça n'a rien à voir?
Alors, le médecin pense que c'est cette pression oculaire qui, à un moment donné, a agi sur l'œil. Et on a cherché, il y a seulement 2 mois que je recouvre un tout petit peu la vue, parce qu'entre-temps, on m'a opéré de la cataracte.
Vous cumulez les problèmes, on va dire. Hein.
Je cumule les problèmes et je suis traité par Osurex, qui aussi c'est des injections à l'œil, pour que je puisse recouvrer vraiment un semblant de vue.
Ambroise, c'est quoi la question que vous souhaitez poser au professeur
alors,
Philippe
Denis? La question, parce que voilà, ma grand-mère disait toujours qu'elle avait des grains de sable dans les yeux. Elle est morte aveugle, elle a dépassé la centaine quand elle mourait. Papa est mort à 84 ans aveugle, il avait aussi les mêmes problèmes. Et moi j'ai commencé à sentir au début des années 90 comme si j'avais des grains de sable dans les yeux. Mais pourtant je sais si j'étais suivi à ophtalmo.
Et vous aviez ces halos autour de l'œil, c'est-à-dire comme un peu des œillères, une vision rétrécie, un champ visuel rétréci ou pas du tout?
Chaque fois que j'avais ces picotements que je sentais comme des grains de sable, je voyais que ma vision baissait, je sentais vraiment qu'elle baissait. Et jusqu'au moment où on a découvert que c'était le glaucome.
Donc, professeur Philippe Denis, la question d'Ambroise, si je comprends bien, c'est de savoir si cette gêne qu'il ressentait pouvait être perçue comme un symptôme ou si ça n'a rien à voir.
Oh, ça a un petit peu à voir parce que une gêne visuelle peut être aussi associée à une gêne oculaire. Et comme monsieur avait, si j'ai bien compris, un traitement déjà par des collyres, les collyres peuvent irriter un petit peu la surface de l'œil. Par contre, la sensation de grains de sable, c'est pas un signe très évocateur de glaucome. Vraiment, il faut le redire, c'est pratiquement impossible de savoir si on est atteint d'un glaucome parce que la pression elle augmente très très progressivement et que la vision devant soi elle est préservée pendant très longtemps. Mais par contre, à un certain stade, les gens ont du mal à voir sur les côtés. Et alors, c'est soit à droite, soit à gauche, soit en haut, soit en bas. Et ils ont une restriction de ce champ visuel périphérique. Et lorsque, des fois, la pression est très, très, très élevée, les gens ont un brouillard visuel parce que la cornée, qui est le petit hublot transparent devant l'œil, eh ben, ils supportent pas non plus cette tension un petit peu élevée et les gens ressentent ce brouillard visuel. Donc, tous les petits signes qui peuvent aller voir qui peuvent motiver une consultation sont bien sûr à prendre parce que ça permet de diagnostiquer la maladie du glaucome. Mais, Ambroise, si j'ai bien compris, a été opéré de la cataracte et a eu aussi une inflammation de l'œil chronique qui est traitée.
Quand il a dit uvéite, c'est ça?
Voilà, tout à fait. C'est le terme d'uvéite et je pense que dans ces conditions, il y a un glaucome et il y a peut-être aussi des symptômes qui sont liés à l'autre pathologie de l'inflammation.
Merci beaucoup Ambroise pour votre question. D'autres questions dans quelques instants. Vous restez en notre compagnie, professeur Philippe Denis. On va se retrouver après une pause musicale avec ce week-end, The Weeknd, oui c'est ça, et ce titre In Your Eyes.
when it's done, yeah. I don't ever wanna know. I could tell what you've done, yeah. When I look at you in your eyes, I see there's something burning.
Priorité santé sur RFI, notre sujet du jour, c'est le glaucome, dépistage, prise en charge le plus tôt possible. Et c'est le message que l'on fait passer depuis le début de cette émission. Professeur Philippe Denis, chef du service d'ophtalmologie à l'hôpital de la Croix-Rousse à Lyon, toujours en ligne avec nous. Message en consultation que vous faites passer bien sûr à vos patients. Également dans une bande dessinée qui s'intitule « Le crépuscule des yeux », raconter une histoire pour expliquer une maladie pas forcément si facile à comprendre que cela, parce qu'il faut bien percevoir cette fameuse anatomie de l'œil pour comprendre ce qu'est le glaucome.
Oui, cette bande dessinée, en fait, on l'a conçue pour expliquer aux patients, mais également à leur entourage, à la famille, ce qu'est un glaucome. Et on a pris le côté un peu humoristique d'une histoire de bande dessinée, de deux copains qui se retrouvent. Et ils s'aperçoivent qu'ils ont tous les deux le glaucome. Et c'est une histoire qui se passe à Lyon, d'ailleurs, et qui illustre tout à fait que le glaucome est une maladie qui est un petit peu mal comprise par les patients, souvent.
Et qui parle aussi d'acceptation et comprendre aussi toutes les implications pour le quotidien. On va retrouver tout de suite un autre auditeur en ligne, professeur Denis. On va lui donner la parole.
RFI à Niamey, 96.2 FM.
De Niamey, au Niger, vous nous appelez Mounkaïla, bonjour.
Bonjour, madame.
Alors, le professeur Denis est à votre écoute. Vous appelez au sujet de votre sœur aînée, c'est bien cela?
Tout à fait, c'est exact.
Expliquez-nous quel diagnostic a été porté sur votre sœur, allez-y.
Donc, il y a environ 8 mois, elle souffrait de problèmes d'yeux. Elle ne voyait pas très bien. Donc, nous sommes adressés à une clinique. Et là, quand on est allé, après les examens, on nous a dit qu'elle avait un glaucome. Et on nous a prescrit des colliers. Donc, un certain nombre de colliers. Je ne sais pas, je ne me rappelle plus du nombre. Donc, elle devait les mettre pratiquement tous les jours. Et quand on est allé pour la visite de contrôle, le médecin a trouvé que c'était pas bien. Donc probablement qu'elle oubliait quelques jours pour appliquer.
De prendre son traitement. Donc on lui a proposé autre chose, c'est-à-dire quoi, une opération?
C'est ça. Donc il nous a proposé maintenant une opération. Il dit que ça peut remplacer un peu les produits. Mais malheureusement, il nous a fait comprendre que le glaucome, la partie qui est lésée, c'est-à-dire tout ce qu'on a perdu dans le cadre du glaucome, on ne peut plus le récupérer. Par contre, quand on fait l'opération, ça permet de maintenir la vie plus ou moins à ce niveau.
Et aujourd'hui, votre sœur, Mounkaïla, votre sœur, elle a encore une vision, elle voit encore des choses?
Oui, elle voit, mais pas très bien. Elle voit pas très bien. Elle doit avoir 3/10, quelque chose comme ça.
Donc, ça veut dire aujourd'hui, votre inquiétude, c'est savoir, est-ce que ça vaut le coup de faire une chirurgie? Est-ce que ça va bloquer l'évolution? Et est-ce qu'elle pourra conserver cette vision même réduite qu'elle a aujourd'hui? Professeur Philippe Denis, évidemment, c'est une question importante quand on s'engage dans une opération comme ça, de savoir si ça va avoir un effet bénéfique.
Oui, la chirurgie, c'est un moment un peu difficile pour les patients parce que On sait que les patients redoutent de se faire opérer des yeux et on comprend bien. Cependant, ça concerne des glaucomes très évolués. Il faut quand même rassurer les patients. D'une façon générale, 80% des gens sont traités avec des collyres, soit un simple collyre, soit deux collyres en même temps ou séparément. Et donc, les patients qui sont opérés sont souvent des glaucomes qui sont en échappement thérapeutique ou qui ont un glaucome qui est un peu réfractaire. Et dans ces conditions, on leur propose la chirurgie. Ça permet très rapidement d'abaisser la tension dans l'œil et donc de protéger le nerf optique. L'efficacité de la chirurgie, ça se juge au bout de 1 ou 2 mois. Et ça permet, quand la pression diminue, ce qui arrive généralement, d'alléger ou même d'arrêter les traitements par collyre que les patients suivaient auparavant.
Donc c'est plutôt un encouragement.
Alors, la décision chirurgicale concerne un certain nombre de patients qui est assez restreint. Mmh. En France, on estime que sur 66 millions d'habitants, on opère 15 000, 20 000 glaucomes par an, ce qui est assez faible. Mmh. En Afrique, c'est un peu différent parce que en Afrique, l'incidence, la fréquence du glaucome est beaucoup plus importante. Et il faut savoir faire la chirurgie et il faut savoir ne pas la faire quand il n'y en a pas besoin. Mais visiblement, chez la sœur de Moukaïla, le glaucome devait être assez grave et donc assez évolué en tout cas. Et donc, il fallait la faire très, très vraisemblablement.
Il y a cette indication. Remercie beaucoup Moukaïla pour son appel. Il nous avait expliqué en préparant l'émission avec Raphaël que sa sœur est âgée de 70 ans, l'âge qui compte beaucoup dans ce diagnostic et dans l'évolution. Et justement, j'ai une question qui vient tout juste d'arriver de Mariama de Paris. Elle nous explique, Mariama, que sa nièce a 16 ans et elle s'est vue diagnostiquer il y a 2 ans, donc à l'âge de 14 ans seulement, tout juste adolescente, un glaucome par un ophtalmologiste. 2 autres médecins n'ont pas confirmé le diagnostic. Elle prend déjà des médicaments pour faire baisser sa tension oculaire, d'où cette question de Mariama. Qu'est-ce que c'est le glaucome juvénile et comment est-il pris en charge ?
Alors, le glaucome juvénile, c'est une forme particulière du glaucome qui survient chez les jeunes, chez les adolescents. Donc, 16 ans, on est tout à fait dans la cible. Et c'est un glaucome qui est peu fréquent, mais qui est vraiment lié à l'augmentation de la tension dans l'œil parce que le petit filtre où le liquide à l'intérieur de l'œil sort de l'œil est, d'un point de vue histologique, un petit peu anormal. Donc, ce filtre devient imperméable. Donc, du coup, le liquide n'arrive pas à sortir de l'œil. Et ce fameux liquide qui provoque la tonicité du globe, là, va entraîner une augmentation de la tension dans l'œil qui sera très importante et va entraîner les mêmes dommages qu'un glaucome chez un adulte.
Ça veut dire que là, le recours chirurgical est préconisé souvent ou pas du tout ?
Beaucoup plus que chez l'adulte. C'est vrai que là, on sait très bien qu'en débouchant, si vous voulez, en faisant ce petit filtre chirurgical qu'on appelle la trabéculectomie ou la sclérectomie, on va pouvoir faire baisser la tension et du coup, le glaucome s'arrête vraiment. Donc, chez cette jeune patiente, on a commencé par des collyres, mais si c'est un vrai glaucome qui est confirmé, je pense que le traitement chirurgical peut être discuté, peut être envisagé.
Donc ça, c'est vraiment aller dans un service spécialisé justement en chirurgie et en ophtalmologie pour avoir un avis complémentaire. On va prendre maintenant la direction du Bénin de Cotonou, où l'on retrouve Hippolyte en ligne. Hippolyte, bonjour.
Bonjour, Caroline Paré.
Alors vous, Hippolyte, un diabète, vous a été diagnostiqué de longue date et vous avez pas mal voyagé pour vous faire soigner. Racontez-nous.
Bon, on m'a détecté un diabète avant l'an 2000. Et au cours de l'année 2005, on m'a détecté une dégénérescence des nerfs liée au diabète. Bon, les gens parlaient souvent
du lien entre le diabète et justement des pathologies oculaires. Voilà. Hippolyte, vous avez eu des prises en charge dans plusieurs pays, vous n'avez pas baissé les bras. Aujourd'hui, c'est quoi votre interrogation par rapport à l'état de vos yeux ?
Mon interrogation est liée à une information que j'ai eue selon laquelle il y a possibilité aujourd'hui, il y aurait possibilité de traiter aujourd'hui, le glaucome avec des cellules souches pour les aider sur les patients.
Donc ça, c'est des traitements très innovants. Et vous voudriez savoir si une personne comme vous, qui a eu sa vision qui a baissé de façon très importante, vous pourriez bénéficier de ce type de traitement, c'est ça ?
Oui, exactement.
Exactement. Alors, on va reprendre depuis le début, professeur Philippe Denis. Bien sûr, c'est très important. Hippolyte a signalé qu'il était atteint de diabète. Pour bien comprendre, est-ce qu'il peut y avoir un lien entre le glaucome et le diabète ?
Alors, il n'y a pas un lien direct entre la rétinopathie diabétique, c'est-à-dire l'atteinte de la rétine, et le glaucome. Par contre, on sait très bien que les patients diabétiques font plus de glaucome que les patients non diabétiques. Donc, c'est un élément supplémentaire pour aller se faire dépister et se faire traiter le cas échéant.
Sur cette question des traitements innovants, Hippolyte a voyagé, les années sont passées, sa vue s'est considérablement dégradée. Il a entendu, c'est vrai, quand on a un problème de santé, on se tient au courant de ce qui se fait en matière d'innovation et de recherche. Ces cellules souches pour la vision, c'en est où précisément, professeur Philippe Denis ?
Alors, trouver des traitements pour remédier à la cécité liée au glaucome ne fait plus partie de la science-fiction. Je pense que dans quelques années, on aura des possibilités pour faire cela. Alors les cellules souches, c'est tout à fait intéressant. C'est les cellules souches que l'on trouve dans la moelle osseuse, et ces cellules peuvent être introduites autour du nerf optique pour aider les cellules nerf optiques à ne pas dégénérer davantage et même de réparer les dommages causés pour améliorer la vue. Alors pour l'instant, c'est encore des travaux qui se font chez l'animal, mais on imagine qu'à un horizon de 5 ans, ça suffira, on pourra passer à des études chez l'homme, et avec un espoir, bien sûr, de régénérer la vision détruite par le glaucome. Cela n'existe pas encore, mais on n'en est pas loin.
On n'est pas loin, parce qu'avec le recul, professeur Denis, on peut vraiment dire que le glaucome est beaucoup mieux pris en charge qu'il y a, par exemple, une vingtaine d'années.
Ah oui, tout à fait. On a beaucoup plus de collyres, des gouttes à mettre qui sont plus pratiques, qui sont mieux tolérées. Il n'y a pas de conservateurs, parce qu'on sait très bien que les collyres à force peuvent être un peu irritants pour la surface de l'œil. Donc les gens trouvent que les collyres piquent et du coup les mettent un petit peu moins. Et il y a eu beaucoup d'innovations dans le domaine des traitements médicaux. Il y a beaucoup de familles thérapeutiques qui peuvent être utilisées soit seules, soit en combinaison. Donc on peut mettre avec un seul flacon une seule goutte, on a plusieurs médicaments qui agissent en même temps. Et sinon, on a également le laser et la chirurgie elle-même a beaucoup changé. Lorsque j'ai débuté mon internat, le patient rentrait le lundi à l'hôpital et sortait le vendredi au mieux après l'opération. Actuellement, les patients rentrent le matin et ils sortent en fin de matinée. Donc ça a beaucoup changé également.
Vous parliez de la technologie laser. Justement, on a un auditeur d'Orléans, hein, en France, Arnaud, qui est concerné par le glaucome. Il a été opéré en 1997. Il avait alors déjà 35 ans. Il a pris des collyres. Il continue d'en prendre, mais il a toujours une forte tension dans l'un de ses yeux, hein, l'œil droit. On lui a donc prescrit encore des collyres. Et on lui a conseillé, hein, assez prochainement, dans le mois qui vient, une opération. Il nous donne le nom de cette opération. Ça s'appelle Laser YAG. Et il demande donc, Arnaud, qu'est-ce que le Laser YAG et comment est-ce que cela fonctionne ?
Alors, le Laser YAG, c'est un laser qui coupe. Mais dans le glaucome, on utilise un autre laser qui est le laser Argon ou laser SLT, qui est un laser qui consiste à envoyer des impacts de lumière très, très focalisés sur la petite zone de l'œil au niveau du filtre où le liquide sort de l'œil. Et c'est une technique qui est très très simple, hein. Ça dure 3-4 minutes par œil et en quelques jours, vous baissez la tension oculaire d'une façon tout à fait efficace, un peu moins que la chirurgie, il faut le dire, mais c'est un relais au traitement médical lorsque celui-ci est insuffisant.
Question très basique, professeur Denis, on dit qu'on va en quelque sorte soulager en faisant sortir un peu de ce liquide, de cette matière. Est-ce qu'elle se renouvelle ? Est-ce que ça va revenir, la pression intraoculaire, ou c'est quelque chose qui est quand même pour une assez longue durée ?
Alors, généralement, c'est pour une longue durée. Mm-hmm. La chirurgie, l'efficacité de la chirurgie se juge au bout de 1 ou 2 mois. Mm-hmm. La pression va baisser, ce qui va nous permettre, dans un premier temps, d'arrêter le traitement par les collyres ou d'alléger le traitement si la tension est encore un petit peu limite. Et c'est vrai que avec le temps, on s'aperçoit que l'efficacité de la chirurgie diminue un petit peu et puis aussi la maladie progresse un petit peu. Alors, on est obligé parfois de reprendre un traitement par collyre, mais heureusement, la lourdeur de ce traitement est moins importante et le nombre de collyres est également moins important.
Et on n'a pas eu l'occasion de saluer et de remercier Hippolyte pour sa question. Hein. Très bonne journée Hippolyte. À Cotonou, à présent, on va partir pour la République démocratique du Congo.
RFI à Kinshasa, 105 FM.
Kinshasa, où vous exercez, docteur Magloire Nzolantima, bonjour.
Bonjour Madame Paré, bonjour professeur Denis.
Bonjour.
Vous êtes chirurgien ophtalmologiste, médecin directeur à la clinique ophtalmologique La Haye Vision. Docteur Nzolantima, pour commencer, si vous le voulez bien, est-ce que vous avez une idée de la fréquence ou des données précises sur la proportion de patients qui vous consultent et qui sont directement concernés par le glaucome ?
Nous avons approximativement 30% de patients qui consultent chez nous qui ont un glaucome.
Et tout à l'heure, un de nos auditeurs nous demandait différence entre glaucome et cataracte. Est-ce qu'il y a beaucoup de patients qui présentent conjointement ces deux affections de l'œil ?
Oui, il y a beaucoup de patients qui viennent effectivement pour une cataracte ou pour un glaucome. Il faut faire la part des choses. Est-ce que la baisse de la vue est liée à la cataracte ou bien elle est liée au glaucome ? Et ça, c'est l'examen clinique qui permettra de pouvoir déterminer et faire la part des choses.
Précisément, depuis le début de cette émission, on a beaucoup parlé du diagnostic, des examens, docteur. Chez vous, sur quoi repose cette exploration, cette recherche, éventuellement pour diagnostiquer le glaucome ?
Alors, c'est le fond de l'œil, comme le professeur Denis. Mmh. Chez nous, nous aimons bien faire des photos. Pour tout patient, tout nouveau patient qui nous consulte, nous faisons des photos qui vont nous permettre de mieux analyser la tête du nerf optique et fibre nerveuse. Ainsi, ça nous permettra de pouvoir détecter le glaucome au stade précoce.
Et en général, qui demande, est-ce que vous avez des patients, parce que tout à l'heure sur la prévention justement on s'interrogeait, à qui revient l'initiative de faire ce dépistage ? Est-ce que c'est le patient qui doit arriver en pleine connaissance de cause en disant « Docteur, j'ai du mal à voir, ma vision s'est rétrécie, mon champ de vision se restreint au fil des mois, est-ce que vous pouvez faire quelque chose ?» Ou alors, est-ce qu'il faut que ce soit de la part du médecin ? On va vous poser cette question dans quelques instants, docteur Nzolantima, dès qu'on aura retrouvé la ligne justement avec Kinshasa. Je me tourne vers notre spécialiste toujours en ligne de Lyon, professeur Denis. Aujourd'hui, vous parliez tout à l'heure des opérations, en termes de recours aux opérations, c'est une proposition que vous faites à quelle proportion de vos patients ?
Oh, environ 10-15% des patients seront opérés. Alors, c'est vrai que moi, je suis un spécialiste du glaucome, donc je vois beaucoup de glaucomes évoluer ou difficiles à traiter, qui n'ont pas été bien stabilisés par les collyres. Donc, c'est vrai que moi, j'opère beaucoup de patients et c'est mon rôle. Mais la plupart des patients qui ont un glaucome sont heureusement traités par collyre. Mm-hmm. Et il faut bien dire aussi que le glaucome n'est pas synonyme de cécité. Mm-hmm. La plupart des glaucomes évoluent assez lentement. Donc on a le temps de se retourner, on a le temps de proposer des traitements efficaces et c'est vraiment important de comprendre cela parce que les gens ont tellement peur de cette maladie que parfois ils essaient de l'éviter et ils en oublient leur traitement.
Alors, éviter la cécité, c'est bien évidemment votre objectif aussi, hein, docteur Magloire Nzolantima. On vous a retrouvé. Le diagnostic qui repose sur le fond d'œil, est-ce que les patients connaissent le mot glaucome ? Est-ce que c'est une maladie qui leur est familière ?
Alors, de plus en plus, les patients s'informent et commencent à connaître ce que c'est le glaucome. Par contre, ils ne comprennent toujours pas que c'est une maladie chronique, nécessite donc un suivi à vie. Mm-hmm. Lorsqu'on leur met un traitement, ce traitement ne doit pas s'arrêter. Il y a beaucoup de patients qui reviennent en consultation au bout d'une année ou 2 ans, qui ont complètement stoppé leur traitement. Mm. Et il faut beaucoup de pédagogie, leur montrer leurs images, donc de la photographie du fond de l'œil, l'OCT, ton visuel, pour qu'ils puissent prendre conscience de leur pathologie.
Ça veut dire qu'il faut une vraie éducation thérapeutique.
Tout à fait.
Alors, docteur Magloire Zolantima, est-ce que ce type d'examen est coûteux, hein? On sait bien évidemment que dans le contexte congolais, il faut parler d'argent. Hein, c'est aussi simple que ça quand il n'y a pas de prise en charge et de couverture santé. Pour les patients congolais, est-ce que c'est accessible ce type de dépistage, d'autant plus qu'il faut le renouveler?
Oui, tout à fait. Alors, il faut savoir une chose, c'est que les machines OCT coûtent assez cher. Et voilà, enfin, on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais pour obtenir un crédit, il faut beaucoup de démarches. Alors nous, ce que nous faisons simplement, nous essayons d'offrir un forfait, c'est-à-dire que quand le patient arrive, il paye un coût qui est couvrir tous les examens que l'on pourrait faire au fur et à mesure qu'on avance dans le dispositif.
Alors, est-ce que vous considérez pour autant que justement cette question financière peut constituer un frein à la prise en charge? Est-ce que ça va déterminer d'ailleurs l'observance des patients? Vous disiez tout à l'heure, peut-être que certains patients arrêtent aussi les colires, tout simplement parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer.
Oui, tout à fait. Ils arrêtent les colires parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer, mais ils arrêtent également les colires parce que lorsqu'on instille les médicaments, ils ne se rendent pas compte. En fait, ils ne voient aucun changement. Et donc, ils ne comprennent pas pourquoi ils devraient continuer à mettre un traitement qui va leur coûter de l'argent, alors qu'ils ne voient aucun changement.
Tout à l'heure, je posais la question à votre confrère, le professeur Denis, sur le recours à la chirurgie. Est-ce que c'est fréquent ou pas dans votre contexte?
Oui, on recourt à la chirurgie, mais malheureusement, la plupart de nos patients acceptent la chirurgie quand il est presque trop tard.
C'est-à-dire qu'il y a déjà une évolution et il y a déjà un risque majeur de cécité. Justement, message de prévention avant d'en arriver là, pour agir le plus tôt possible. Comment faire passer ce message auprès de toutes celles et de tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui?
Alors, je dirais check-up, check-up, check-up chez l'ophtalmologue, une fois ou deux fois l'an. Voilà, et parce que un diagnostic précoce permet effectivement une prise en charge précoce de la maladie. Surtout ne pas penser que toutes les maladies se traitent par le port de lunettes, ça c'est très important à souligner, et éviter le traitement à base de corticoïdes, car beaucoup de patients consomment énormément de corticoïdes qui peuvent s'acheter facilement dans les pharmacies. Et donc, les corticoïdes augmentent également la pression intraoculaire.
Donc, faire bien attention aux conséquences pour la vision. On vous remercie beaucoup, docteur Magloire Nzolantima. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Excellente journée à Kinshasa. On vous retrouve en ligne de Lyon, professeur Philippe Denis. On a un auditeur du Sénégal, de Dakar, Mayorog, qui nous avait appelé. Il nous a expliqué que pour lui, comme la maladie est héréditaire et qu'il y a plusieurs cas dans sa famille, il fait un suivi régulier depuis qu'il a 40 ans. Il a consulté justement un ophtalmo, on lui a diagnostiqué le glaucome, mais voilà, il y a une évolution assez rapide de la maladie. Et justement, il met en avant le coût des colires. Il n'arrive pas à financer ce traitement au long cours parce qu'il n'a plus de revenus, parce qu'il a perdu son emploi. Et il voudrait savoir s'il y a justement des traitements moins coûteux, type médicaments génériques, pour que ce soit accessible au plus grand nombre. Est-ce que justement, pour les affections ophtalmologistes, on pense bien sûr aux traitements prioritaires antibiotiques, antidouleurs, et puis éventuellement aussi les antirétroviraux pour les personnes concernées par le VIH. Il y a des génériques. Est-ce que c'est la même chose quand on souffre d'une maladie des yeux ?
Oui, tout à fait. De plus en plus, il y existe des génériques qui sont en fait des médicaments tout à fait comparables aux médicaments qui sont d'origine, mais qui sont effectivement moins chers. Alors, pour l'œil, c'est un peu particulier parce que on met ces gouttes dans l'œil et dans une goutte de colire, il y a non seulement le principe actif, c'est-à-dire le vrai médicament, mais il y a également des excipients, des conservateurs, des choses qui sont faites pour stabiliser le traitement. Et parfois, on peut voir des différences de tolérance entre le générique ou est le médicament d'origine. Donc l'efficacité de ces génériques est tout à fait comparable, donc c'est tout à fait rassurant. Par contre, on voit que certains patients trouvent qu'il y a des différences entre la tolérance des colires d'origine et la tolérance des colires génériques. Mais c'est évidemment une solution parce que ça coûte moins cher et que ça permet de suivre un traitement, c'est bien sûr très important.
Et ça peut même paraître étonnant face à une affection aussi grave que le glaucome, professeur Denis, de dire on se soigne avec un collyre. À première vue, un collyre, c'est quelque chose d'assez anodin. On dit on met des gouttes dans les yeux et pourtant, ce sont vraiment des médicaments qui marchent.
Ah, tout à fait. Ce n'est pas une goutte d'eau qu'on met dans l'œil. C'est une technologie très précise qui va agir à des points très précis du fonctionnement de l'œil. C'est tout à fait intéressant. C'est tout le domaine de la pharmacologie. C'est un peu comme un comprimé qui fait plein d'effets. On est parfois surpris de l'efficacité des traitements. C'est un peu la même chose pour les collyres.
On parlait tout à l'heure de l'acceptation. Bien évidemment, quand il y a ce diagnostic de glaucome, on peut être un petit peu abattu. Professeur Philippe Denis, est-ce qu'il est possible, parce qu'on imagine que les patients peuvent le faire, vous demander quelles sont mes perspectives d'évolution, quasiment de prédiction? Qu'est-ce que vous dites aux patients dans ces cas-là?
Alors d'abord, on leur explique que le glaucome, dans la plupart des cas, évolue très lentement, donc il n'y a pas d'urgence. Il faut bien sûr prendre en charge la maladie, mais on a le temps d'adapter le traitement si le premier traitement n'a pas été efficace. On a plein de moyens thérapeutiques, on a les collyres, le laser, la chirurgie, donc on a vraiment beaucoup d'armes thérapeutiques qui sont efficaces. Et on a également, et depuis quelques années, des logiciels mathématiques, arithmétiques qui sont basés sur des scanners du nerf optique. Et on peut suivre d'une façon très, alors c'est un peu technique, mais on peut suivre d'une façon extrêmement précise l'évolution du glaucome. Et en quelques examens faits sur un ou deux ans, on peut dire à un patient, vous risquez d'être handicapé dans votre âge avancé, ou vous risquez vous avez la chance de ne plus avoir de symptômes de glaucome durant toute votre vie. Et c'est vraiment toute la technologie des examens nous permet d'aller beaucoup plus loin dans le pronostic de la maladie.
On vous remercie infiniment pour toutes ces explications. On aura encore pu parler de beaucoup de choses, notamment des perspectives de recherche que l'on a abordées rapidement tout à l'heure avec les cellules souches. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été en ligne de Lyon, professeur Philippe Denis. Je rappelle que vous y êtes chef du service d'ophtalmologie à l'hôpital de la Croix-Rousse.
Priorité santé sur RFI.
Une revue scientifique francophone en libre accès, son titre « Médecine tropicale et santé internationale ». Nous avions envie d'y faire référence aujourd'hui parce qu'on imagine que cela peut intéresser beaucoup de médecins qui nous écoutent en ce moment. Magazine, bulletin pour un meilleur échange d'informations entre les acteurs francophones de la santé en milieu tropical, pour partager les données, pour partager les expériences, et c'est très important tout ça gratuitement. On retrouve en ligne le professeur Jean Janin. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin général de santé publique, président de la Société francophone de médecine tropicale et santé internationale. Professeur Janin, donc cette revue créée pour se mettre au service de la santé des pays du Sud dans le contexte de pandémie, une crise qui a montré justement toute l'importance de cette presse scientifique.
Tout à fait. Donc c'est une préoccupation qui est importante pour nous. Je voudrais tout de même préciser que cette nouvelle revue succède à une revue qui existait depuis plus d'un siècle, le bulletin de la Société de pathologie exotique. On a souhaité remodeler la proposition éditoriale pour être beaucoup plus accessible pour nos confrères, principalement du Sud, et pour les plus jeunes, et leur donner la possibilité de publier, de s'exprimer, évidemment en français. Donc, au fond, l'idée qui nous a guidés, c'est d'élargir l'audience, plutôt dans le contexte toinais, c'est-à-dire de médecine tropicale, d'infectieux, bien sûr, mais aussi sur les problématiques générales de climat, etc. etc. Donc,
renouveler, étendre l'héritage de votre précédente publication, cette Santé du Sud, avec justement une problématique centrale, c'est l'accès à ce type de publication en raison de leur coût, pour publier, également pour consulter.
Tout à fait. Donc au fond, cette nouvelle revue qui est maintenant en ligne, donc, est accessible à tous, sans inscription. La consultation et le téléchargement des articles sont gratuits. et également la publication ou les propositions de publication par nos confrères partout dans le monde est gratuite. Hein, donc on peut envoyer des photos, etc. Tout est totalement gratuit, donc on essaie de lever tous les freins possibles à des publications en français, ce qui est important, puisque cette revue, maintenant, je crois, est la seule en langue française. Donc je crois que c'est quelque chose de tout à fait fondamental.
Essentiel aussi la crédibilité justement des articles. On l'a vu encore récemment dans l'actualité avec un certain nombre de questionnements sur des vérifications. Bien sûr, le sérieux des relecteurs, relecture par les pairs, hein, c'est le jargon. Justement, importance d'avoir des référents, on va dire, indiscutables.
Tout à fait. Alors, en deux mots, cette revue donc a deux parties principales. Une qui est le bulletin, qui est la revue peer-reviewed, comme on dit, revue par les pairs, dont nous avons un comité de lecture qui est très très large. C'est l'héritage de 100 ans, donc on a vraiment des gens très très experts dans le monde francophone. Donc cette partie-là, c'est une revue au fond classique, avec revue par les pairs et indexée. Et puis on a une deuxième partie qui est un magazine et qui... qui se situe un peu en dehors du cadre formel des articles originaux, avec des propositions de lecture, avec des cas cliniques, avec un certain nombre de choses qui, je pense, intéressent beaucoup, principalement les jeunes confrères dans les hôpitaux, un petit peu partout, parce que c'est quelque chose de très pratique également.
Évidemment, un des articles très spécialisés, je suis allée consulter, envenimation après une piqûre de scorpion, paludisme, diabète AVC en contexte tropical. Auparavant, dans quel type de revue les chercheurs et praticiens du Sud pouvaient publier ces travaux?
Alors, avant, il y avait, si vous voulez, le bulletin de la Société de pathologie exotique, qui était malheureusement un peu en perte de vitesse. Mmh. Et puis, on a une revue qui s'appelait Médecine tropicale. Celle-ci a disparu, donc on l'a réintégrée. Le but pour l'instant, pour être très très clair, c'est d'inciter nos jeunes confrères partout à publier en français. Je sais bien que, la publication en anglais, c'est celle qui est une meilleure assurance pour sa carrière, etc. Mais je pense que c'est important d'offrir un cadre francophone pour la publication des articles. Donc au fond... Je vous remercie de m'avoir invité à dire deux mots sur notre nouvelle revue. C'est aussi de lancer un appel pour dire à nos jeunes confrères ou à nos plus anciens, bien évidemment, de ne pas hésiter à nous envoyer des articles. Plus on recevra d'articles intéressants, diversifiés, etc., plus le forum que représente cette revue sera large. Donc, c'est une sorte de contrat entre deux, entre le publieur et le publié, qui devrait permettre d'étendre un petit peu ses possibilités.
Et on est complètement aux antipodes de ce qu'on appelle bien sûr les revues prédatrices, puisque vous, il n'y a pas d'argent en jeu, ça fait jamais de mal de le rappeler. On proposera bien sûr le lien vers votre revue, vers votre site sur la page de l'émission du jour. Et on vous remercie chaleureusement, professeur Janin, d'avoir répondu à nos questions. Et merci à l'équipe qui chaque jour fabrique et réalise votre émission. Ophélie Lassen, Louise Kalédek, Raphaël Pluskva, Didier Bleu et Laurence Naud. On se retrouve demain.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance, qui en cas de décès met à l'abri vos proches de tout besoin financier. Suno Assurance, notre métier, l'assurance. 7 milliards de voix.